La fête étrange. Dès qu'ils eurent disparu, l'écolier sortit de sa cachette. Il avait les pieds glacés, les articulations raides, mais il était reposé et son genou paraissait guéri. « Descendre au dîner, pensa-t-il, je ne manquerai pas de le faire. Je serai simplement un invité dont tout le monde a oublié le nom. D'ailleurs, je ne suis pas un intrus ici. Il est hors de doute que M. Malvoyot et son compagnon m'attendaient. » Au sortir de l'obscurité totale de l'alcôve, il put y voir assez distinctement dans la chambre éclairée par les lanternes vertes. Le bohémien l'avait garni. Des manteaux étaient accrochés aux patères. Sur une lourde table à toilette, au marbre brisé, on avait disposé de quoi transformer en muscadin un tel garçon qui eût passé la nuit précédente dans une bergerie abandonnée. Il y avait sur la cheminée des allumettes auprès d'un grand flambeau. Mais on avait omis de cirer le parquet, et Mohn sentit rouler sous ses lousiers du sable et des gravats. De nouveau, il eut l'impression d'être dans une maison depuis longtemps abandonnée. En allant vers la cheminée, il faillit buter contre une pile de grands cartons et de petites boîtes. Il étendit le bras, alluma la bougie, puis souleva les couvercles, et se pencha pour regarder. C'étaient des costumes de jeunes gens d'il y a longtemps, des redingotes à haut col de velours, de fins gilets très ouverts, d'interminables cravates blanches et des souliers vernis du début de ce siècle. Ils n'osaient rien toucher du bout des doigts, mais après s'être nettoyé en frissonnant, il endossa sur sa blouse d'écolier un des grands manteaux dont il releva le collet plissé, remplaça ses souliers ferrés par de fins escarpins vernis et se prépara à descendre du tête. Il arriva sans rencontrer personne au bas d'un escalier de bois dans un recoin de cour obscure. L'haleine glacée de la nuit lui vint souffler au visage et soulever un pan de son manteau. Il fit quelques pas, et grâce à la vague clarté du ciel, il put se rendre compte aussitôt de la configuration des lieux. Il était dans une petite cour, formée par des bâtiments, des dépendances. Tout y paraissait vieux et ruiné. Les ouvertures au bas des escaliers étaient béantes, car les portes depuis longtemps avaient été enlevées. On n'avait pas non plus remplacé les carreaux des fenêtres, qui faisaient des trous noirs dans les murs. Et pourtant, toutes ces abatisses avaient un mystérieux air de fête. Une sorte de reflet coloré flottait dans les chambres basses, où l'on avait dû allumer aussi, du côté de la campagne, des lanternes. La terre était balayée, on avait arraché l'herbe envahissante. Enfin, en prêtant l'oreille, Mohn crut entendre comme un chant, comme des voix d'enfants et de jeunes filles, là-bas, vers les bâtiments confus, où le vent secouait les branches devant les ouvertures roses, vertes et bleues des fenêtres. Il était là, dans son grand manteau, comme un chasseur, à demi penché, prêtant l'oreille, lorsqu'un extraordinaire petit jeune homme sortit du bâtiment voisin qu'on aurait cru désert. Il avait un chapeau de forme très cintré, qui brillait dans la nuit comme s'il eût été d'argent. Un habit dont le col lui montait dans les cheveux, un gilet très court, un pantalon à sous-pieds. Cet élégant, qui pouvait avoir 15 ans, marchait sur la pointe des pieds, comme s'il eût été soulevé par les élastiques de son pantalon, mais avec une rapidité extraordinaire. Il salua Mohn au passage sans s'arrêter, profondément, automatiquement, et disparut dans l'obscurité, vers le bâtiment central, ferme, château ou abbaye, dont la tourelle avait guidé l'écolier au début de l'après-midi. Après un instant d'hésitation, notre héros emboîta le pas au curieux petit personnage. Ils traversèrent une sorte de grande cour-jardin, passèrent entre des massifs, contournèrent un vivier enclos de palissades, un puits, et se trouvèrent enfin au seuil de la demeure centrale. Une lourde porte de bois, arrondie dans le haut et cloutée comme une porte de presbytère, était à demi ouverte. L'élégant s'y engouffra. Mohn le suivit, et dès ses premiers pas dans le corridor, il se trouva, sans voir personne, entouré de rires, de chants, d'appels et de poursuites. Tout au bout de celui-ci passait un couloir transversal. Maul hésitait s'il allait pousser jusqu'au fond ou bien ouvrir une des portes derrière lesquelles il entendait un bruit de voix, lorsqu'il vit passer dans le fond deux fillettes qui se poursuivaient. Il courut pour les voir et les rattraper à pas de loup sur son escarpin. Un bruit de porte qui s'ouvre, deux visages de 15 ans que la fraîcheur du soir et la poursuite ont rendu tout rose, sous de grands cabriolets à brides, et tout va disparaître dans un brusque éclat de lumière. Une seconde, elles tournent sur elles-mêmes par jeu, leurs amples jupes légères se soulèvent et se gonflent, on aperçoit la dentelle de leurs longs, amusants pantalons, puis ensemble, après cette pirouette, elles bondissent dans la pièce et referment la porte. Moon resta un instant ébloui et titubant dans ce corridor noir. Il craignit maintenant d'être surpris. Son silhouette allure hésitante et gauche le ferait sans doute prendre pour un voleur. Il va s'en retourner délibérément vers la sortie, lorsque de nouveau il entend dans le fond du corridor un bruit de pas et des voix d'enfants. Ce sont deux petits garçons qui s'approchent en parlant. « Est-ce qu'on va bientôt dîner ?» leur demande Moon avec aplomb. « Oh, viens avec nous !» répond le plus grand. « On va t'y conduire !» Et avec cette confiance et ce besoin d'amitié qu'ont les enfants, la veille d'une grande fête, ils le prennent chacun par la main. Ce sont probablement deux petits garçons de paysans. On leur a mis leurs plus beaux habits, de petites culottes coupées à mi-jambes, qui laissent voir leurs gros bas de laine et leurs galoches, un petit juste au corps de velours bleu, une casquette de même couleur et un nœud de cravate blanc. « La connais-tu, toi ?» demande l'un des enfants. « Oh, moi, fais le plus petit, qui a une tête ronde et des yeux naïfs. Maman m'a dit qu'elle avait une robe noire et une collerette et qu'elle ressemblait à un joli Pierrot. » « Qui donc ?» demande Moul. « Eh bien, la fiancée que Franz est allé chercher. » Avant que le jeune homme ait pu rien dire, ils sont tous les trois arrivés à la porte d'une grande salle où flambe un beau feu, des planches en guise de table ont été posées sur des tréteaux, on a étendu des nappes blanches et des gens de toutes sortes dînent avec cérémonie. La fête étrange, suite. C'était dans une grande salle, au plafond bas, un repas comme ceux que l'on offre la veille des noces de campagne aux parents qui sont venus de très loin. Les deux enfants avaient lâché les mains de l'écolier et s'étaient précipités dans une chambre attenante où l'on entendait des voix puériles et des bruits de cuillères battant les assiettes. Maud, avec audace et sans s'émouvoir, enjamba un banc et se trouva assis auprès de deux vieilles paysannes. Il se mit aussitôt à manger avec un appétit féroce, et c'est au bout d'un instant seulement qu'il leva la tête pour regarder les convives et les écouter. On parlait peu d'ailleurs. Ces gens semblaient à peine se connaître. Ils devaient venir les uns du fond de la campagne, les autres de villes lointaines. Il y avait, et par le long des tables, quelques vieillards avec des favoris et d'autres complètement rasés qui pouvaient être d'anciens marins. Près d'eux dînaient d'autres vieux qui leur ressemblaient, même face tannée, même yeux vifs sur des sourcils en broussailles, même cravate étroite comme des cordons de souliers. Mais il était aisé de voir que ceux-ci n'avaient jamais navigué plus loin que le bout du canton. Et s'ils avaient tangué et roulé plus de 1000 fois sous les averses et dans le vent, c'était pour ce dur voyage sans péril qui consiste à creuser le sillon jusqu'au bout de son champ et à retourner ensuite la charrue. On voyait peu de femmes, quelques vieilles paysannes avec de rondes figures ridées comme des pommes sous des bonnets violetés. Il n'y avait pas un seul de ces convives avec qui Maulne ne se sentit à l'aise et en confiance. Il expliquait ainsi plus tard cette impression. « Quand on a, disait-il, commis quelques lourdes fautes impardonnables, on songe parfois, au milieu d'une grande amertume, « Il y a pourtant par le monde des gens qui me pardonneraient. » Alors on imagine de vieilles gens, des grands-parents pleins d'indulgence, qui sont persuadés à l'avance que tout ce que vous faites est bien fait. Certainement, parmi ces bonnes gens-là, les convives de cette salle avaient été choisis. Quant aux autres, c'étaient des adolescents et des enfants. Cependant, auprès de Maulne, les deux vieilles femmes causaient. « En mettant tout pour le mieux, disait la plus âgée, d'une voix cocasse et suraiguë qu'elle cherchait vainement à adoucir, « les fiancés ne seront pas là demain avant 3 heures. »« Ah, tais-toi, tu me feras mettre en colère, » répondait l'autre d'un ton le plus tranquille. Celle-ci portait sur le front une capeline tricotée. « Coton, » reprit la première sans s'émouvoir, « 1 heure et demie de chemin de fer de Bourges à Vierzon et 7 lieues de voiture de Vierzon jusqu'ici. » La discussion continua. Maulne n'en perdait pas une parole. Grâce à cette paisible prise de bec, la situation s'éclairait faiblement. Franz de Galais, le fils du château, qui était étudiant ou marin ou peut-être aspirant de marine, on ne savait pas, était allé à Bourges pour y chercher une jeune fille à l'épouser. Chose étrange, ce garçon, qui devait être très jeune et très fantasque, réglait tout à sa guise dans le domaine. Il avait voulu que la maison où sa fiancée entrerait ressemblât à un palais en fête. Et pour célébrer la venue de la jeune fille, il avait invité lui-même ses enfants et ses vieilles gens débonnaires. Tels étaient les points que la discussion des deux femmes précisait. Elle laissait tout le reste dans le mystère et reprenait sans cesse la question du retour des fiancés. L'une ne tenait pour le matin du lendemain, l'autre pour l'après-midi. « Ma pauvre moinelle, t'es toujours aussi folle !» disait la plus jeune avec calme. « Et toi, ma pauvre Adèle, toujours aussi entêtée ! Il y a 4 ans que je ne t'avais vue, t'as pas changé !» répondait l'autre en haussant les épaules, mais de sa voix la plus paisible. Et elle continuait ainsi à se tenir tête, sans la moindre humeur. Maulne intervint dans l'espoir d'en apprendre davantage. « Est-elle aussi jolie qu'on le dit, la fiancée de Franz ?» Elles le regardèrent interloquées. Personne d'autre que Franz n'avait vu la jeune fille. Lui-même, en revenant de Toulon, l'avait rencontrée un soir, désolée, dans un des jardins de Bourges qu'on appelle les Marais. Son père, un tisserand, l'avait chassée de chez lui. Elle était fort jolie, et Franz avait décidé aussitôt de l'épouser. C'était une étrange histoire. Mais son père, M. de Galais, et sa sœur Yvonne, ne lui avaient-ils pas toujours tout accordé? Maulne, avec précaution, allait poser d'autres questions lorsque parut à la porte un couple charmant. Une enfant de 16 ans, avec corsage de velours et jupe à grand volant, un jeune personnage en habit à haut col et pantalon à élastique. Ils traversèrent la salle, esquissant un pas de deux. D'autres les suivirent, puis d'autres passèrent en courant, poussant des cris, poursuivis par un grand pierrot blafard aux manches trop longues, coiffé d'un bonnet noir et riant d'une bouche édentée. Il courait à grandes enjambées maladroites, comme si à chaque pas il eût dû faire un saut, et il agitait ses longues manches vides. Les jeunes filles en avaient un peu peur. Les jeunes gens lui serraient la main, et il paraissait faire la joie des enfants qui le poursuivaient avec des cris perçants. Au passage, il regarda Maulne de ses yeux vitreux, et l'écolier crut reconnaître, complètement rasé, le compagnon de M. Maloyau, le bohémien, qui tout à l'heure accrochait les lanternes. Le repas était terminé, chacun se levait. Dans les couloirs s'organisaient des rondes et des farandoles. Une musique, quelque part, jouait un pas de menuet. Maulne, la tête à demi cachée dans le collet de son manteau comme dans une fraise, se sentait un autre personnage. Lui aussi, gagné par le plaisir, se mit à poursuivre le grand Pierrot à travers les couloirs du domaine, comme dans les coulisses d'un théâtre où la pantomime de la scène se fut partout répandue. Il se trouva ainsi mêlé jusqu'à la fin de la nuit à une foule joyeuse aux costumes extravagants. Parfois, il ouvrait une porte et se trouvait dans une chambre où l'on montrait la lanterne magique. Des enfants applaudissaient à grand bruit. Parfois, dans un coin de salon où l'on dansait, il engageait conversation avec quelques dandies et se renseignait hâtivement sur les costumes que l'on porterait les jours suivants. Un peu angoissé à la longue par tout ce plaisir qui s'offrait à lui, craignant à chaque instant que son manteau entr'ouvert ne laissât voir sa blouse de collégien, il alla se réfugier un instant dans la partie la plus paisible et la plus obscure de la demeure. On n'y entendait que le bruit étouffé d'un piano. Il entra dans une pièce silencieuse qui était une salle à manger éclairée par une lampe à suspension. Là aussi c'était fête, mais fête pour les petits-enfants. Les uns, assis sur des poufs, feuilletaient des albums ouverts sur leurs genoux. D'autres étaient accroupis par terre devant une chaise et gravement, ils faisaient sur le siège un étalage d'images. D'autres, auprès du feu, ne disaient rien, ne faisaient rien, mais ils écoutaient au loin, dans l'immense demeure, la rumeur de la fête. Une porte de cette salle à manger était grande ouverte. On entendait dans la pièce attenante jouer du piano. Maulne avança curieusement la tête. C'était une sorte de petit salon parloir. Une femme ou une jeune fille, un grand manteau marron jeté sur ses épaules, tournait le dos, jouant très doucement des airs de ronde ou de chansonnette. Sur le divan, tout à côté, 6 ou 7 petits garçons et petites filles, rangés comme sur une image, sages comme le sont les enfants lorsqu'il se fait tard, écoutaient. De temps en temps seulement, l'un d'eux, arc-bouté sur les poignets, se soulevait, glissait à terre et passait dans la salle à manger. Un de ceux qui avait fini de regarder les images venait prendre sa place. Après cette fête où tout était charmant, mais fiévreux et fou, où lui-même avait si follement poursuivi le grand Pierrot, Maulne se trouvait là, plongé dans le bonheur le plus calme du monde. Sans bruit, tandis que la jeune fille continuait à jouer, il retourna s'asseoir dans la salle à manger, et ouvrant un des gros livres rouges épars sur la table, il commença distraitement à lire. Presque aussitôt, un des petits qui était par terre s'approcha, se pendit à son bras et grimpa sur son genou pour regarder en même temps que lui. Un autre en fit autant de l'autre côté. Alors, ce fut un rêve comme son rêve de jadis. Il put imaginer longuement qu'il était dans sa propre maison, marié, un beau soir, et que cet être charmant et inconnu qui jouait du piano près de lui, c'était sa femme. La rencontre. Le lendemain matin, Maulne fut prêt un des premiers. Comme on le lui avait conseillé, il revêtit un simple costume noir, de mode passé, une jaquette serrée à la taille avec des manches bouffantes aux épaules, un gilet croisé, un pantalon élargi du bas jusqu'à cacher ses fines chaussures et un chapeau de forme. La cour était déserte encore lorsqu'il descendit. Il fit quelques pas et se trouva comme transporté dans une journée de printemps. Ce fut en effet le matin le plus doux de cet hiver-là. Il faisait du soleil comme au premier jour d'avril. Le givre fondait et l'herbe mouillée brillait comme humectée de rosée. Dans les arbres, plusieurs petits oiseaux chantaient et de temps à autre, une brise tiédie coulait sur le visage du promeneur. Il fit comme les invités qui se sont éveillés avant le maître de la maison. Il sortit dans la cour du domaine, pensant à chaque instant qu'une voix cordiale et joyeuse allait crier derrière lui « Déjà réveillé, Augustin ?» Mais il se promena longtemps seul à travers le jardin et la cour. Là-bas, dans le bâtiment principal, rien ne remuait, ni aux fenêtres, ni à la tourelle. On avait ouvert déjà, cependant, les deux battants de la ronde porte de bois. Et dans une des fenêtres du haut, un rayon de soleil donnait, comme en été, aux premières lueurs du matin. Moulin, pour la première fois, regardait en plein jour l'intérieur de la propriété. Les vestiges d'un mur séparaient le jardin délabré de la cour où l'on avait depuis peu versé du sable et passé le râteau. À l'extrémité des dépendances qu'il habitait, c'étaient des écuries bâties dans un abusant désordre qui multipliaient les recoins garnis d'arbrisseaux fous et de vignes vierges. Jusque sur le domaine, déferlaient des bois de sapins qui le cachaient à tout le pays plat, sauf vers l'est, où l'on apercevait des collines bleues couvertes de rochers et de sapins encore. Un instant dans le jardin, Moon se pencha sur la blanche barrière de bois qui entourait le vivier. Vers les bords, il restait un peu de glace mince et plissée comme une écume. Il s'aperçut lui-même reflété dans l'eau, comme incliné sur le ciel, dans son costume d'étudiant romantique. Et il crut voir un autre Moon, non plus l'écolier qui s'était évadé dans une carriole de paysan, mais un être charmant et romanesque, au milieu d'un beau livre de prix. Il se hâta vers le bâtiment principal, car il avait faim. Dans la grande salle où il avait dîné la veille, une paysanne mettait le couvert. Dès que Moon se fut assis devant un des bols alignés sur la nappe, elle lui versa du café en disant « Oh, vous êtes le premier, monsieur !» Il ne voulut rien répondre, tant il craignait d'être soudain reconnu comme un étranger. Il demanda seulement à quelle heure partirait le bateau pour la promenade matinale qu'on avait annoncée. « Oh, pas avant une demi-heure, monsieur. Personne n'est descendu encore, » fut la réponse. Il continua donc d'entrer en cherchant le lieu de l'embarcadère autour de la longue maison châtelaine aux ailes inégales comme une église. Lorsqu'il eut contourné l'aile sud, il aperçut soudain les roseaux à perte de vue qui formaient tout le paysage. L'eau des étangs venait de ce côté mouiller le pied des murs. Il y avait, devant plusieurs portes, de petits balcons de bois qui surplombaient les vagues clapotantes. Désœuvré, le promeneur erra un long moment sur la rive sablée comme un chemin de halage. Il examinait curieusement les grandes portes aux vitres poussiéreuses qui donnaient sur des pièces délabrées ou abandonnées, sur des débarras encombrés de brouettes, d'outils rouillés, de pots de fleurs brisés, lorsque, soudain, à l'autre bout des bâtiments, il entendit des pas grincer sur le sable. C'étaient deux femmes, l'une très vieille et courbée, l'autre une jeune fille blonde, élancée, dont le charmant costume, après tous les déguisements extraordinaires de la veille, parut d'abord à Moon extraordinaire. Elles s'arrêtèrent un instant pour regarder le paysage, tandis que Moon se disait avec un étonnement qui lui parut plus tard bien grossier, « Oh, voilà sans doute ce qu'on appelle une jeune fille excentrique. C'est peut-être une actrice qu'on a mandé pour la fête. » Cependant, les deux femmes passaient près de lui et Moon, immobile, regarda la jeune fille. Souvent, plus tard, lorsqu'il s'endormait, après avoir désespérément essayé de se rappeler le beau visage effacé, il voyait en rêve passer des rangées de jeunes femmes qui ressemblaient à celle-ci. L'une avait un chapeau comme elle, et l'autre son air un peu penché, l'autre son regard si pur, l'autre encore sa taille fine, et l'autre avait aussi ses yeux bleus. Mais aucune de ces femmes n'était jamais la grande jeune fille. Moon eut le temps d'apercevoir, sous une lourde chevelure blonde, un visage aux traits un peu courts, mais dessiné avec une finesse presque douloureuse. Et comme déjà elle était passée devant lui, il regarda sa toilette, qui était bien la plus simple et la plus sage des toilettes. Perplexe, il se demandait s'il allait les accompagner, lorsque la jeune fille, se tournant imperceptiblement vers lui, dit à sa compagne « Le bateau ne va pas tarder maintenant, je pense. » Et Maul ne les suivit. La vieille dame, cassée, tremblante, ne cessait de causer gaiement et de rire. La jeune fille répondait doucement. Et lorsqu'elles descendirent sur l'embarcadère, elle eut ce même regard innocent et grave qui semblait dire « Mais qui êtes-vous? Que faites-vous ici? Je ne vous connais pas. Et pourtant, il me semble que je vous connais. » D'autres invités étaient maintenant épars entre les arbres, attendant. Et trois bateaux de plaisance accostaient, prêts à recevoir les promeneurs. L'un à un, sur le passage des dames, qui paraissaient être la châtelaine et sa fille, les jeunes gens saluaient profondément et les demoiselles s'inclinaient. Étrange matinée, étrange partie de plaisir. Il faisait froid malgré le soleil d'hiver, et les femmes enroulaient autour de leur cou ces boas de plumes qui étaient alors à la mode. La vieille dame resta sur la rive, et sans savoir comment, Moon se trouva dans le même yacht que la jeune châtelaine. Il s'accouda sur le pont, tenant d'une main son chapeau battu par le grand vent, et il put regarder à l'aise la jeune fille qui s'était assise à l'abri. Elle aussi le regardait. Elle répondait à ses compagnes, souriait, puis posait doucement ses yeux bleus sur lui, en tenant sa lèvre un peu mordue. Un grand silence régnait sur les berges prochaines. Le bateau filait avec un bruit calme de machines et d'eau. On eût pu se croire au cœur de l'été. On allait aborder, semblait-il, dans le beau jardin de quelque maison de campagne. La jeune fille s'y promènerait sous une ombrelle blanche. Jusqu'au soir, on entendrait les tourterelles gémir. Mais soudain, une rafale glacée venait rappeler décembre aux invités de cette étrange fête. On aborda devant un bois de sapins. Sur le débarcadère, les passagers durent attendre un instant, serrés les uns contre les autres, qu'un des bateliers eut ouvert les cadenas de la barrière. Avec quel émoi Moon se rappelait dans la suite cette minute où, sur le bord de l'étang, il avait eu très près du sien le visage désormais perdu de la jeune fille. Il avait regardé ce profil si pur de tous ses yeux jusqu'à ce qu'ils fussent prêts de s'emplir de larmes. Et il se rappelait avoir vu, comme un secret délicat qu'elle lui eût confié, un peu de poudre rester sur sa joue. À terre, tout s'arrangea comme dans un rêve, tandis que les enfants couraient avec des cris de joie, que des groupes se formaient et s'éparpillaient à travers bois, Moon s'avança dans une allée où 10 pas devant lui marchait la jeune fille. Il se trouva près d'elle, sans avoir eu le temps de réfléchir. « Vous êtes belle !» dit-il simplement. Mais elle hâta le pas et, sans répondre, prit une allée transversale. D'autres promeneurs couraient, jouaient à travers les avenues, chacun errant à sa guise, conduit seulement par sa libre fantaisie. Le jeune homme se reprocha vivement ce qu'il appelait sa balourdise, sa grossièreté, sa sottise. Il errait au hasard, persuadé qu'il ne reverrait plus cette gracieuse créature, lorsqu'il l'aperçut soudain venant à sa rencontre et forcé de passer près de lui dans l'étroit sentier. Elle écartait de ses deux mains nues les plis de son grand manteau. Elle avait les souliers noirs très découverts. Ses chevilles étaient si fines qu'elles pliaient par instants et qu'on craignait de les voir se briser. Cette fois, le jeune homme salua en disant très bas « Oh, voulez-vous me pardonner ?»« Je vous pardonne, » dit-elle gravement, « mais il faut que je rejoigne les enfants, puisqu'ils sont les maîtres aujourd'hui. Adieu !» Augustin la supplia de rester un instant encore. Il lui parlait avec gaucherie, mais d'un ton si troublé, si plein de désarroi, qu'elle marcha plus lentement et l'écouta. « Je ne sais même pas qui vous êtes, » dit-elle enfin. Elle prononçait chaque mot d'un ton uniforme, en appuyant de la même façon sur chacun, mais en disant plus doucement le dernier. Ensuite, elle reprenait son visage immobile, sa bouche un peu mordue et ses yeux bleus regardaient fixement au loin. « Je ne sais pas non plus votre nom, » répondit Maulne. Il suivait maintenant un chemin découvert, et l'on voyait à quelque distance les invités se presser autour d'une maison isolée dans la pleine campagne. « Voici la maison de France, » dit la jeune fille, « il faut que je vous quitte. » Elle hésita, le regarda un instant en souriant, et dit « Mon nom, moi je suis mademoiselle Yvonne de Galais. » Et elle s'échappa. La maison de Franz était alors inhabitée, mais Maulne la trouva envahie jusqu'au grenier par la foule des invités. Il n'eut guère le loisir d'ailleurs d'examiner le lieu où il se trouvait. On déjeuna en hâte d'un repas froid emporté dans les bateaux, ce qui était fort peu de saison, mais les enfants en avaient décidé ainsi, sans doute, et l'on repartit. Maulne s'approcha de mademoiselle de Galais et dès qu'il la vit sortir, et... répondant à ce qu'elle avait dit tout à l'heure. « Le nom que je vous donnais était plus beau, » dit-il. « Comment ? Quel était ce nom ? » fit-elle toujours avec la même gravité. Mais il eut peur d'avoir dit une sottise et ne répondit rien. « Mon nom à moi est Augustin Maulne, » continua-t-il, « et je suis étudiant. »« Oh, vous étudiez ?» dit-elle. Et ils parlèrent un instant encore. Ils parlèrent lentement, avec bonheur, avec amitié. Puis l'attitude de la jeune fille changea, moins hautaine et moins grave. Maintenant, elle parut aussi plus inquiète. On lui dit qu'elle redoutait ce que Maulne allait dire et s'en effarouchait à l'avance. Elle était auprès de lui, toute frémissante, comme une hirondelle un instant posée à terre et qui déjà tremble du désir de reprendre son vol. « À quoi bon, à quoi bon ?» répondait-elle doucement au projet que faisait Maulne. Mais lorsqu'enfin il osa lui demander la permission de revenir un jour vers ce beau domaine, « Je vous attendrai, » répondit-elle simplement. Ils arrivaient en vue de l'embarcadère. Elle s'arrêta soudain et dit pensivement « Nous sommes deux enfants. Nous avons fait une folie. Il ne faut pas que nous montions cette fois dans le même bateau. Adieu. Ne me suivez pas. » Maulne resta un instant interdit, la regardant partir. Puis il se reprit à marcher. Et alors la jeune fille, dans le lointain, au moment de se perdre à nouveau dans la foule des invités, s'arrêta, et, se tournant vers lui pour la première fois, le regarda longuement. Était-ce un dernier signe d'adieu ? Était-ce pour lui défendre de l'accompagner ? Ou peut-être avait-elle encore quelque chose à lui dire ? Dès qu'on fut rentré au domaine, commença derrière la ferme, dans une grande prairie en pente, la course des poneys. C'était la dernière partie de la fête. D'après toutes les prévisions, les fiancés devaient arriver à temps pour y assister, et ce serait Franz qui dirigerait tout. On dut pourtant commencer sans lui. Les garçons en costume de jockey, les fillettes en écuyères, amenaient les uns de fréquents poneys enrubannés, les autres de très vieux chevaux dociles. Au milieu des cris, des rires enfantins, des paris et des longs coups de cloche, on se crut transporté sur la petite pelouse verte et taillée de quelques champs de course en miniature. Maulne reconnut Daniel et les petites filles aux chapeaux à plumes qu'il avait entendues la veille dans l'allée du bois. Le reste du spectacle lui échappa, tant il était anxieux de retrouver dans la foule le gracieux chapeau de rose et le grand manteau marron. Mais Mademoiselle de Galais ne parut pas. Il la cherchait encore lorsqu'une volée de coups de cloche et des cris de joie annoncèrent la fin des courses. Une petite fille sur une vieille jument blanche avait remporté la victoire. Elle passait triomphalement sur sa monture et le panache de son chapeau flottait au vent. Puis, soudain, tout se tut. Les jeux étaient finis et Franz n'était pas de retour. On hésita un instant, on se concerta avec embarras. Enfin, par groupe, on regagna les appartements pour attendre dans l'inquiétude et le silence le retour des fiancés.